Pauvre gosse, pensa-t-il en le voyant rejoindre son emplacement. Pauvre gamin, ça a tout de suite 18 ans, quelques semaines d'entraînement, et ça se retrouve en pleine bagarre. Peut-être même qu'il monte sa première garde. C'est bien normal qu'il crève de peur. Moi aussi j'ai peur, car quoi que je lui ai dit, rien ne prouve que les autres ne sont pas en train d'approcher. Pas en rampant dans la boue, c'est quasi impossible, mais en se glissant dans les tranchées abandonnées, écroulées et souvent bouchées qui nous séparent de Barleu. Car ils sont bien là-bas, les teutons, à quelques dizaines ou centaines de mètres, comment savoir? Ils sont là dans les éboulis et dans tous les boyaux qui entourent les ruines du bourg, ce coin pourri qui défend la route qui mène à Péronne. Barleu, enfin, ce qu'il en reste, sur lequel les planqués de l'état-major, il y a encore 10 jours, voulaient lancer une attaque. Et ils nous ont fait venir exprès pour ce casse-pipe. Coup de chance pour nous, les biffins, ces andouilles de galonnés, n'avaient pas pensé à la pluie. Quand on est arrivé, elle dégringolait déjà depuis des semaines, et elle ne s'est toujours pas calmée. Il aurait fallu être encore plus fous qu'ils ne le sont pour nous lancer à l'attaque, droit sur les canons et les mitrailleuses, alors que, rien que pour avancer 2 mètres, il faut bien calculer où on met les pieds. Parce qu'autrement, on se retrouve dans la boue jusque plus haut que la ceinture. Alors pour courir là-dedans, zéro. On devait attaquer le 15 au matin, et on se disait déjà qu'il y aurait autant de copains enlisés et noyés dans la boue que flingués. Et puis alors qu'on était prêt à patauger vers Barleu, l'ordre de tout arrêter est arrivé. Avec les copains, les vieux comme moi, tous ceux qui sont là depuis 14, les PCDF, pauvres couillons du front, comme nous appellent les planqués, on a cru que cette annulation était une blague, un canard. Il y a tellement de ces fausses nouvelles qui volent partout. On a même pensé qu'il y avait eu une erreur de transmission. C'est vrai, il est tellement rare que l'état-major prenne une décision intelligente qu'on a tous mis un peu de temps à y croire. Ce n'était pourtant pas un bobard. Et depuis, on attend. On est là, dans la boue et sous la pluie. Prêts à défendre ces saloperies de tranchées dans lesquelles on est quasiment enlisé. Et moi, je suis là dans la gadoue jusqu'aux genoux, à attendre la relève. Et comme le gamin d'à côté, j'ai la trouille, car on n'est jamais sûr de rien. La trouille et sommeil, et peut-être plus sommeil que peur. Mais il ne faut pas dormir, faut surtout pas dormir. Alors de nouveau, pour rester éveillé et lucide, il s'obligea à penser à Coste Blanc, à la ferme, à Marthe et aux enfants. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 22h45. C'est après le 5 septembre 14 et le communiqué de Joffre qu'il apparut de plus en plus certain que la guerre ne serait pas finie avant Noël. Certes, les troupes avaient enfin cessé de reculer devant la percée ennemie. Elles avaient arrêté leur fuite, souvent désordonnée, due pour partie à la débandade dès le 22 août et dans la zone nord-est de la petite armée anglaise, comme l'appelait paraît-il le Kaiser. Malgré cela, et les communiqués toujours très optimistes, largement diffusés par toute la presse, beaucoup de celles dont les fiancés, les maris ou les fils étaient au feu, commençaient à douter d'une proche victoire. D'ailleurs, à la ferme des Combettes, les premières lettres de Jean étaient loin de pousser Marthe à l'optimisme. Elles étaient d'un laconisme éloquent. À tel point que, déçue par le contenu et la froideur des premières missives, et avant de comprendre pourquoi son époux retenait sa plume, elle lui avait répondu que, désormais, quelques mots de lui suffiraient du genre « Je vais bien, envoie-moi ça et ça. Je vous embrasse, toi et les enfants. Baisez aussi à maman et à mémé. » De cette façon, la destinataire qu'elle était ne se rongerait plus les sangs dans l'attente d'un message qui, une fois ouvert, se révélait d'une désolante platitude. Mais, dès cette réponse expédiée, et presque honteuse de n'avoir pas tout de suite compris que Jean, par pudeur, ne pouvait lui en dire plus, elle avait eu à cœur de lui envoyer, le plus souvent possible, de longs, détaillés et brûlants messages. Et elle était certaine qu'il en était heureux. C'est dans la première lettre reçue qu'elle avait appris que Jean et Édouard, en tant que réservistes, avait été incorporé dans le 326e de ligne, sorte de frère aîné du 126e régiment d'infanterie, composé, lui, de troupes plus jeunes. Elle avait aussi découvert que le régiment n'avait quitté Brive que le 11 août et s'était un peu révoltée, en calculant qu'entre le départ de Jean et de tous les voisins au matin du 2 août et la date de leur embarquement en train pour une destination inconnue, ils auraient eu le temps de finir les moissons et de les mettre à l'abri. Au lieu de ça, c'étaient les femmes que la mobilisation avait contraintes à effectuer tout leur travail. Depuis, elle avait compris que plus rien n'était comme avant, que la guerre était là, qu'il était inutile de se rebeller contre elle et que la seule conduite à tenir était de serrer les dents et de faire face. Faire face. Telle fut désormais l'obligation de toutes celles qui, comme Marthe, furent tenues, dans tous les domaines, de trouver des solutions qui, jusqu'à ce jour, avaient été exclusivement, pour ne pas dire jalousement, le fait des hommes. Dans toutes les fermes, une fois la moisson finie, se posa la question du battage. Car il ne servait à rien d'avoir serré les gerbes en grosses meules trônant au milieu des cours si l'on était incapable de séparer le grain de la paille. Opération dont l'urgence n'échappait à personne, car, outre le fait que les rats, les souris et les moineaux allaient très vite profiter de l'aubaine et s'empiffraient à bon compte, les réserves de farine allaient être épuisées sous peu, et sans elles, plus de pain. À son sujet, là encore, il avait fallu moins d'une semaine pour que Marthe soit confrontée au problème posé par sa fabrication. Jusque-là, tous les 12 à 15 jours, lorsque la dernière tourte devenait trop dure et uniquement destinée à tremper la soupe, Jean préparait une fournée pour les quelques 8 ou 10 miches de 10 livres nécessaires à la consommation familiale. Depuis sa petite enfance et l'époque où elle voyait œuvrer son père, Marthe connaissait les secrets de la panification. De même, savait-elle comment Jean, après avoir longuement pétri et laissé lever la pâte dans la mets, puis dans les bannetons, chauffait le four. La voûte de celui-ci bien blanche, les braises restant retirées, elle se souvenait de ses gestes pour apprécier la chaleur de la sole, pour enfourner ensuite les bâtons, bien enfarinés et marqués par deux coups de couteau, et comment il surveillait la cuisson. Mais cela, c'était la technique, et elle réalisa très vite qu'il y avait un abîme entre celle-ci et la pratique. Heureusement, prudente et très consciente de ne posséder ni la force ni l'entraînement d'un homme, elle s'était gardée de verser dans la mets autant d'eau et de farine que Jean. Malgré cela, et même en ayant divisé par deux les quantités, elle crut bien ne jamais réussir à pétrir, pendant près de 2 heures, les 25 kilos de pâte qu'elle voulait faire cuire. Épuisée, en sueur, malgré son corsage grand ouvert, ses seins presque à l'air et le bas de sa jupe retroussée et coincée dans sa ceinture, elle eut la tentation d'abandonner. Mais une nouvelle fois, le regard goguenard que sa belle-mère lui lançait chaque fois qu'elle venait voir où en était le pétrissage la fustigea.
« Vous me semblez bien mal partie pour faire de la bonne ouvrage. Vous vous êtes crue plus forte que vous n'êtes comme toujours. Je crains que toute cette bonne farine ne soit perdue. »
railla même Octavine, alors que Marthe, au travail depuis une demi-heure, redoutait de pouvoir venir à bout de sa tâche. Rompue, toute ruisselante de transpiration, elle avait maintenant le visage aussi blanc de fatigue que de farine et était prête à s'avouer que ses forces n'étaient pas à la hauteur de son ambition. Mais la méchante réflexion la cingla comme un coup de cravache.
« J'ai décidé qu'on mangerait du pain frais ce soir et on en mangera !»
halta-t-elle sans cesser de brasser la pâte.
« Et si vous n'avez rien de mieux à faire au lieu de me regarder, allez donc allumer le four, les fagots sont prêts. Vous savez quand même gratter une allumette, oui ?»
Vexée, Octavine s'était éclipsée en grommelant. Mais le feu ronflait lorsque, peu après, Marthe était enfin venue à bout de son travail d'homme. Comme promis, au soir, outre les tartes à la confiture, il y avait du pain frais sur la table. Et peu importait qu'Octavine l'ait jugé mal cuit et trop compact, car pas assez pétri. Il était là, c'était l'essentiel.
Et comment
on va faire pour le bâtard?